Cet épisode contient des récits de violences LGBT-phobes. Pour l'écouter, assurez-vous d'être dans de bonnes dispositions.
Qui est-ce qui casse la gueule aux homosexuels ?
Bon, c'est des loubards, quoi, ce qu'on appelle des loubards. Bon, c'est des types qui ont entre, je sais pas, qui ont entre 16 et 20 ans. Quoi.
Les 5 dernières années, les violences homophobes ont doublé, selon le ministère de l'Intérieur, et la transphobie est aujourd'hui, au moment où nous parlons, au cœur des guerres culturelles menées par les conservateurs en Europe et dans le monde entier.
Partout où je vais, je me demande si c'est mon dead name qui va être utilisé, est-ce que je vais être mégenré. Enfin, je suis en vigilance tout le temps, et je me sens être une anomalie. Je sens que les gens tolèrent ma présence, mais qu'elle n'est pas normale.
Ce que ça veut dire, concrètement ? C'est que ces violences-là sont partout, partout autour de nous.
Ces violences, elles sont permises et elles sont amplifiées en ce moment par un certain contexte politique de libération aussi, entre guillemets, de la parole réactionnaire.
L'idée est casser du PD, quoi, ça fait viril pour eux. Ils se défoulent.
Cet épisode vient chercher de nombreux moments, certains que l'on préfère enfouir. Depuis le début de ce podcast, je m'efforce d'écrire sur la joie de vivre ici, sur les ruralités qui peuvent être révolutionnaires. Puis je suis tombée sur cet article, qui raconte l'histoire de deux hommes en couple qui décident de vendre leur commerce dans un petit village de Bretagne, car il y a beaucoup trop d'homophobes, et qu'ils vivent de l'homophobie. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, même si j'essaie d'écrire une autre histoire et de donner de la joie, des perspectives, je ne peux pas éviter d'écrire un épisode sur les LGBT-phobies. Ça me questionne. C'est quoi les LGBT-phobies ? Est-ce que ce sont les petites remarques du quotidien ? Est-ce que c'est subtil ? Est-ce que c'est quand on sent que la personne n'est pas ouverte ? Est-ce que ce sont des agressions physiques, verbales ? Est-ce que c'est tout ça à la fois ? Est-ce que c'est le fait que les gens soient ignorants et qu'ils ne veuillent pas s'éduquer ? Est-ce que c'est se placardiser parfois ? Dans Champ Queer, je veux comprendre ce que nous font nos territoires. Comment on vit dans des endroits sans représentation ? Comment on dénoue tout ça ? Comment on n'est pas tout le temps en colère ? Personnellement, j'ai vécu des LGBT-phobies dans des grandes villes, dans des petites villes. Partout. Je sais que nos vies sont ponctuées de ces violences, mais je sais que les vivre ici peut nous faire nous demander « Pourquoi je reste là ? Est-ce que j'ai besoin de rester là ?» Je sais que cet épisode sera peut-être difficile à écouter, mais je me dis que je ne peux pas juste raconter le bon côté de l'histoire. J'ai pas juste envie de raconter ce que c'est d'être queer en milieu rural, j'ai envie de raconter comment on transforme les campagnes et comment nos vies s'inscrivent dans nos territoires. Je veux aussi raconter comment on fait de nos fractures des forces. Mais je ne peux pas raconter cette histoire sans parler des violences, celle du quotidien, celle de nos voisins, celle de ceux et celles qui composent nos espaces de vie. Je sais qu'on est des dizaines, des centaines à être retournés en ruralité, malgré des adolescences un petit peu pourries. Je sais qu'il y a des centaines de personnes qui n'en sont pas parties. Je sais qu'on est des centaines à ne pas se sentir super à notre place en ville, mais qu'on en a quand même besoin comme des espaces de respiration. Alors voilà, cet épisode est pour vous. Pour vous réparer, pour me réparer, un peu comme tout ce podcast. Vous écoutez Champ Queer, épisode 3. Discrimination et LGBT-phobie. D'abord, ils éteignent notre lumière, puis ils pavent nos chemins de la pourriture. Alors que nous cherchions à vivre, ça tourne dans la tête. Sale gouine, sale pédé, sale trans, sale monstre et autres. Et le reflet dans le miroir, savoir qu'il faudra tout reconstruire brique par brique, alors que les autres n'auront pas à le faire, et encaisser, et essayer d'être joyeux, et s'apprivoiser soi-même, et expliquer aux autres qui n'ont pas eu à reconstruire. J'ai basé cet épisode sur deux témoignages, celui de Théo et celui de Kevin. Je les remercie de s'être confiés à mon micro. J'ai aussi agrégé des discussions grappillées ça et là, notamment lors d'une rencontre à Loris, dans le Vaucluse, avec le collectif Gabi, l'antilope queer du Luberon.
Théo, j'habite en Corrèze depuis presque 10 ans. C'est un département qui est souvent qualifié de dans la diagonale du vide, même si moi j'ai pas l'impression qu'il est vide, mais en tout cas ça peut faire cette impression depuis les grandes villes. Ma volonté c'était vraiment d'être dans un territoire rural pour des raisons écologiques, d'être dans un endroit où il y aurait des associations dynamiques, dans une optique changer le système, lutter contre le changement climatique, lutter contre le capitalisme et tout ça. Je kiffe la Corrèze. J'adore le réseau militant qui est là, j'adore le paysage, le fait que c'est vert, enfin, il pleut beaucoup. Et du coup, il n'y a pas cette sensation de sécheresse et d'aridité que je pouvais avoir dans le sud de la France, d'où je viens. Et aussi, dans un truc de changement climatique, ça m'allait bien de viser un territoire vert. Voilà. Du coup, il y a vraiment un truc de le territoire m'a plu et le réseau militant m'a plu. Mais j'étais pas du tout à la recherche de personnes queer parce que c'était pas ma question à ce moment-là. Je suis restée, après j'ai été en couple et j'ai eu un enfant. Donc ça c'est clairement la raison principale pour laquelle je reste ici. C'est le fait que je suis en garde alternée avec un enfant de 6 ans. Et donc, je suis attachée au territoire, avec des fois où je me dis je me sens attachée genre émotionnellement, et des fois où je me sens bloquée en fait. Le côté je suis peut-être pas complètement hétéro, ça faisait longtemps que ça me trottait en tête. J'aime pas dire ça parce qu'après on dit non mais les lesbiennes elles deviennent lesbiennes parce qu'elles aiment pas les hommes. Mais il y a eu un truc de vraiment j'en ai marre de relationner avec des mecs cis hétéros, j'en peux plus de eux. Et du coup ça fait longtemps que ça me trotte en tête d'avoir des relations avec d'autres personnes, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Au printemps 2021, je découvre la non-binarité. À partir de là, oui, clairement, j'ai une date de « Oh ouais, mais c'est quoi cette histoire ?»« Ah ouais, mais en fait, je suis concernée, tout ça. » Et donc là, tout change à partir de printemps 2021. J'avais que des amis hétéros et j'avais une amie bi. Quand j'ai commencé à me poser des questions, c'est clairement à elle que je parlais, mais c'était plus au téléphone. Enfin, elle n'était pas là forcément dans mon quotidien. Donc à ce moment-là, c'est la seule personne d'avant quoi, qui était déjà queer et qui est toujours une amie maintenant. La vraiment rencontre marquante pour moi qui m'a fait passer le pas de je suis sur le questionnement de ouh, qu'est-ce que c'est la non-binarité et ça fait peur quand même d'être trans quoi. Enfin vraiment, quand j'y repense, je suis toujours effarée. Enfin je me souviens vraiment de mon effroi de me dire la galère, vraiment. La fierté, je l'ai à peu près maintenant parce que j'ai connecté avec des personnes trans. Mais vraiment, ma sensation en découvrant ça, c'était pas de la fierté. Hein, c'était ma vie là, ça va devenir infernal. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment mes sensations, c'est de l'effroi. C'est pas de la joie. Enfin, c'est de la joie au début de me dire ouh, mais en fait, la binarité, je suis peut-être pas concernée. Et après, quand j'ai commencé à capter les implications. Ah merde, je ne me reconnais plus dans ce pronom. Non. Enfin là, je me suis dit la galère. Et l'été, je vais à un baltrade, parce que je vais souvent à des baltrades. Et là, je suis attirée par une personne. Enfin, je ne suis pas attirée sexuellement, je suis attirée visuellement par une personne qui avait un style un peu différent des autres. Et qui, pendant le bal, quand on disait les filles, les garçons, disait oui, on peut dire les guidants et les guidés sinon. Et du coup, je vois que cette personne m'interpelle, quoi. Et je vais lui parler. Et en fait, très rapidement, on a un feeling qui se fait. Et en fait, cette personne est une personne non-binaire de Toulouse, qui est maintenant un de mes meilleurs amis, et qui du coup a été la première personne non-binaire que je rencontre physiquement. Et qui ce n'est plus juste des podcasts, des documentaires, des trucs loin de moi. Ça devient concrètement, je vois quelqu'un, et concrètement, je vois qu'il y a un truc différent dans cette personne. Et m'a dit, en fait, j'étais là, je me posais des questions sur la non-binarité, mais je ne sais pas trop, peut-être que je ne suis pas légitime, et qui m'a dit, en fait... Si tu te poses ces questions, c'est que t'es peut-être concerné. Et du coup, ça a fait un « Ah ouais, vraiment ?» Enfin, voilà. Donc, clairement, je pense que j'aurais mis des mois de plus si j'avais pas rencontré cette personne qui me faisait un miroir, en fait. Et que si j'avais été que avec des cis hétéros. Mais du coup, c'est une personne de Toulouse, en fait. C'est pas quelqu'un gérant sur mon territoire. Mais voilà. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à aller à Toulouse le voir. Et là, je me rends compte qu'il y a des queers partout. C'est-à-dire que je vois des personnes, je suis en banlieue de Toulouse et je vois une personne à barbe et à rouge à lèvres. Et je me souviens être scotchée, en fait. Me dire, oh, mais il y a ça. Enfin, voilà. Et là, j'en vois partout. J'en vois dans le métro, j'en vois dans la rue. Je vois des personnes qui ne sont pas dans en fait, la binarité cis-hétéro. Et en fait, je me remarque l'espace que ça fait en moi. Et l'émotion que j'ai encore là en t'en parlant, en fait. De me dire, oh, mais ça existe, ça. Enfin, voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, de août 2021, je me dis, je crois que j'ai besoin d'aller à Toulouse souvent, là. Et donc, toute l'année 21-22, je vais à Toulouse tous les mois.
Après, là, c'était plus la question de... en fait, là, il y a un collectif qui existe, donc c'est su. Et du coup, comment... En fait, est-ce que s'il y a des gens qui posent des questions, des choses comme ça, c'est un peu c'était pour faire le parallèle avec l'association dont fait partie Mars. Qui se confrontent en fait à l'effet gossip dans le village, c'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent pas au festival parlent du festival dans le bar du village. Donc c'était plus ça, c'était plus pour savoir comment expliquer aux gens ce que fait Gabi, qu'est-ce que ça permet, etc. Enfin,
j'avoue que j'ai aucune idée de comment est perçu Gaby en dehors des gens de Gaby. Est-ce qu'il y a une
visibilité de Gaby? J'ai un doute là-dessus.
Je me demande si en fait les gens sont ne serait-ce qu'au courant de ce collectif.
Dans mon petit monde autour.
Nous qui sommes là,
oui, c'est ça.
Moi j'en ai parlé à.
Des gens connaissent Gaby.
Comment c'est fait entre vous déjà?
Je n'entends jamais parler.
À titre personnel, j'en ai parlé à quelqu'un de mon quartier et il y a une grosse incompréhension et tout de suite une peur. Que ce soit en fait une peur que j'arrive avec mon grand drapeau et que je mette le drapeau au-dessus de la porte et que ce soit les gens. En tout cas, j'ai eu l'impression que la personne se sentait menacée. Et genre vraiment une incompréhension totale, genre mais c'est pisser dans un violon, genre mais pourquoi vous faites ça, ça sert à rien. Après t'as quelqu'un en face de toi qui est pas concerné par ces questions-là, et donc forcément pour elle, ça sert à rien. Et c'était pas évident, et sur le coup j'avais pas l'énergie de la pédagogie, qu'on n'a pas toujours. Mais en tout cas voilà, pour répondre à la question de la peur, de l'incompréhension.
Moi en tant que personne non-binaire et qui est encore dans... une expérimentation de ma transidentité qui essaye de mettre des... j'ai des passages à vide et là je suis un peu dans un passage parfois un peu à vide parce que très souvent quand j'ai essayé moi dans mon coin de ruralité où il n'y a rien au niveau de maillage queer, j'ai vu des regards qui m'ont effrayé et où je me sentais vraiment en danger, mal à l'aise. Quand on m'a parlé de Gaby, du coup, ça m'a fait un bien, vraiment beaucoup de bien, de savoir que quelque part, pas si loin de chez moi que ça, il y avait quelque chose où je pouvais un peu plus être moi, en dehors de mes cercles amicaux, de mes cercles vraiment amicaux proches, où je pouvais, en dehors de ça, être moi. Et ça, vraiment, ça m'a touché.
Je m'appelle Kevin, j'ai 37 ans, je suis professeur des écoles, je suis non-binaire. Et voilà. J'habite à Saint-Rémy-de-Provence, donc qui est une petite ville assez rupaine dans les Alpilles, qui sont une petite zone qui est entre Arles et Avignon, on va dire. De manière diffuse, parce que c'est une manière supposée, c'est finalement plus par rapport à un côté supposément, enfin tel qu'on me l'a posé, efféminé, que j'ai subi et que j'ai bien compris comme étant de la violence. Je ne sais pas si réellement liée à ma sexualité supposée ou à mon genre supposé, mais en tout cas qui était clairement des violences dues au fait que j'allais hors de la norme de celle, en tout cas de celle qu'on attendait de moi à ce moment-là. Disons que déjà il y a le fait que c'était des violences que j'ai subies dans un contexte professionnel. Et déjà il y a ça. Et il y en a une qui aurait pu se passer un peu n'importe où et une autre qui à mon avis est bien plus liée à une façon de penser bien de la localité de manière très conservatrice et traditionnaliste. Pour la première, c'est une violence que j'ai subie. Je vais pas forcément donner les noms exacts des lieux, mais il y a une école où j'ai travaillé, où la directrice est ouvertement d'extrême droite. Et cette directrice, je l'ai remplacée pour une seule journée. Et ce qu'elle m'avait laissé déjà m'avait... beaucoup choquée. Il y avait des choses qui n'allaient pas, quoi. C'est une catholique fervente, etc. Et les manuels qu'elle utilisait, notamment en histoire, n'allaient pas du tout. Ça évoquait la Sainte Jeanne d'Arc. La Sainte Jeanne d'Arc, en plus, j'ai eu droit à la partie sur Jeanne d'Arc ce jour-là. Et du coup, j'ai été tel que je suis normalement, mais... Il s'est avéré que quelques temps plus tard, j'ai reçu un mail de ma hiérarchie sans m'en dire plus qui me convoquait. et donc à la convocation. Je connaissant mes droits, je suis venu avec un de mes camarades de mon syndicat qui m'a accompagné. Et du coup, mon inspectrice m'a demandé, du coup, si vous venez avec un collègue syndicaliste, c'est que vous savez ce que j'ai à vous reprocher. Alors je lui ai dit, déjà, je ne savais même pas que c'était pour des reproches que vous m'aviez convoqué. Et bref, parmi les choses du coup qu'elle a invoquées, en fait, la directrice en question avait laissé un long mail, plein de reproches sur moi, sur ma façon de faire. Et parmi les choses qui étaient dedans, donc un tiré qui disait mimique et posture féminine. Donc, en tant que reproche. Donc déjà, il y avait ça. Et en plus, il y avait aussi au milieu de tout un ensemble de choses qui étaient vraiment des inventions totales. Mais où, voilà, je sentais bien que ma manière d'être, alors qu'elle ne l'avait pas vécu, elle ne l'a même pas vue, elle n'était pas là ce jour-là, du coup, vu que je la remplaçais. Bah, elle a quand même trouvé le moyen de m'enfoncer. Et le pire dans tout ça, c'est que mon inspectrice, donc la personne au-dessus de moi, elle ne m'a pas du tout soutenue et m'a au contraire posé cette question, en fait, m'a demandé. Et donc, mimique et posture féminine, qu'est-ce que je lui ai répondu? Mais je ne comprends même pas le reproche, en fait. Là. Et donc, vraiment, le fait que ma hiérarchie appuie en plus cette violence... J'en suis sorti, je veux dire, en pleurant, en me demandant est-ce que je vais démissionner, quoi. Finalement, il s'est avéré que après ça n'a pas donné suite, mais je sais que j'ai changé de zone pour la zone juste à côté, et il s'avère que c'est son mari qui était l'inspecteur de cette zone-là, et il m'en a parlé dès le début de l'année, en gros en me disant qu'il était au courant.
La première fois que je vais à une permanence du groupe Trans Toulousain, le collectif Trans Toulousain, qui est le dimanche matin, je mets une heure, c'est à une demi-heure de où je suis, je mets une heure et demie à y aller parce que je m'arrête tout le temps, parce que je pleure, parce que je suis en panique totale. Je rentre dans le local et je fais j'ai droit de rentrer, et là il y a une personne qui me dit on mord pas sauf les 6-7, et là je fonds en larmes, en fait, parce que je sais pas ce que ça veut dire 6-7. Et que du coup, je suis là genre « Ah, mais je ne suis pas assez queer pour vous. » Enfin, j'en sais rien, moi, je suis « Ah !» Enfin, voilà. Et du coup, ils sont tous en panique avec moi qui pleure au milieu d'eux. Enfin, je retourne à mon territoire à chaque fois, genre, regonflée par mes vacances à Toulouse. Genre, je me sens renforcée par là. Et au début, ça va, on va dire. C'est-à-dire que mon quotidien ne m'est pas insupportable. C'est mon quotidien est normal. Et les moments à Toulouse, c'est la fête, quoi. Enfin, voilà. Mais je ne souffre pas sur le territoire, trop, au début. Ça change depuis 2022, quand ça commence à s'affirmer en moi. Et donc, je vois qu'il y a un moment qui est marquant. Et donc là, on commence à parler violence queer. Un milieu rural, c'est un bal. J'ai pas mal d'anecdotes liées à la réassignation de genre, qui est liée au bal, mais c'est pas forcément de la méga violence, mais c'est toujours ce truc de, genre dans un cercle circassien, être là genre, non, mais là c'est les filles et là c'est les garçons, et je suis en mode, je guide en fait. Enfin voilà, et ce truc de, je vois qu'il y a un fort enjeu sur les bals, où ça fait du coup un moment que j'ai décidé que j'étais toujours dans la posture de guider, sauf quand je choisis d'être guidée, et que du coup ça dérange forcément, mais voilà. Et donc c'est un bal, et là je parle à une amie qui me connaît depuis longtemps et qui est assez bourrine. Elle sait que je suis en questionnement et tout ça. Je me sentais plutôt safe avec elle, mais j'avais oublié qu'elle était bourrine. Et du coup, ouvertement, elle me pose la question d'où j'en suis, en fait, sur la non-binarité ou sur mon pronom ou mes pronoms. Je sais plus ce qu'elle me dit, mais je sens, moi, que je suis un peu... je me glace, tu vois, parce qu'en fait, on est dans un environnement hétéro. Elle en parle avec des gens, enfin, elle en parle, tu sais, comme un peu une conversation de comptoir, quoi. Il y a 2-3 autres personnes à côté et moi, je suis là. Donc, je ne sais plus trop ce que je réponds, mais je me souviens de mon effroi. Et qu'après, il y a son mec, je ne sais pas s'ils sortent ensemble encore, mais en tout cas, un mec avec qui j'étais sortie l'année d'avant, et je m'étais dit, flemme. Ça faisait partie de. Voilà. Et qui. Commence à me dire mais c'est flou, mais il y a quelque chose de l'ordre de on va pas quand même t'appeler te genrer masculin maintenant et truc de pourquoi t'imites les hommes. Enfin, il y a un truc comme ça. Je sais plus ce que je réponds et il rigole. Et là, moi, je me souviens plus trop grand chose du reste du bal. Je me souviens de rentrer chez moi et d'être trop, enfin pas chez moi, je dormais chez des potes en plus et d'être super mal. Et je savais pas pourquoi en fait. C'est-à-dire que je me sentais pas bien et j'arrivais pas à identifier ce que c'était. Donc le lendemain, là, j'avais 3 personnes queer dans mon entourage à ce moment-là et je leur envoie un texto aux 3 en mode « Je sais pas trop ce qui se passe, mais je me sens pas bien, il s'est passé un truc hier. » Et là, les 3 me font de la réassurance de ouf et me disent « Là, c'était transphobe en fait, ce qui s'est passé. » Mais sinon, avant, je pouvais pas le nommer en tant que transphobe parce qu'il a pas dit « Les personnes trans sont méchantes ou sont nulles. » Mais il s'est moqué de moi. Et à partir de là, bah, ça a commencé à dégénérer ma vie parce que, notamment avec ma mère, parce qu'en fait, je lui ai raconté. Et elle m'a vraiment sorti un discours de « reste dans le placard ». De « mais pourquoi t'as besoin d'en parler ? C'est sûr que tu t'exposes à la violence si t'en parles. Pourquoi tu peux pas être non-binaire mais à l'intérieur de toi sans que ça se sache ?» et pas du tout de soutien en fait, de « ah waouh, ben, ce que t'as vécu, ça avait l'air chaud ». Et donc là commence une période qui va faire que s'empirer avec ma mère. Parce que ma mère, elle le savait dès le début. Hein, je veux dire, dès que j'ai écouté le podcast et que... Enfin, dès l'été d'avant, où j'ai commencé à modifier mon prénom, parce que je l'ai modifié 3 fois, bah, je lui disais, mais c'est trop cool. En fait, je crois que vraiment, la binarité, ça ne me concerne pas. Non. En fait, elle trouvait ça sympathique. C'est ça qu'elle disait toujours. Ah oui, la non-binarité, c'est sympathique. Mais par contre, d'aller jusqu'à changer mes pronoms, demander à ce que ce soit Yel. À l'époque, c'était Yel. Maintenant, c'est Il. C'est Il quasi tout le temps. Et des fois, c'est Yel. Eh ben en fait, là, quand même, à partir du moment où ça a commencé à lui demander des efforts, eh ben, elle n'était plus aussi chaud. Et surtout, elle considérait, ben, comme beaucoup, que c'était une phase, que c'était une passade, que c'était un truc que j'étais toujours un peu trop radicale et que je faisais des expériences et que du coup, c'était une expérience parmi d'autres et qu'elle attendait que l'expérience soit terminée. Et donc, on est allé jusqu'à la rupture complète. Donc là, c'était chaud parce que j'ai vraiment perdu mon appui un peu familial. Et donc, ça n'a pas été du rejet en mode « je suis virée de la maison », mais c'était hyper insidieux et hyper violent de la part de pas mal de monde de ma famille. Et donc, on ne peut pas dire que là, c'était quelque chose de l'ordre de la ruralité, mais il se trouve que là, c'est devenu insupportable pour moi d'être ici, quoi. De pas être... qu'il n'y avait que à Toulouse que je me sentais bien et qu'en Corrèze, j'étais là « oh, personne ne comprend ce que je suis en train de vivre, en fait enfin, ». Voilà. La phase hyper dure du début de transition.
L'autre anecdote, c'est j'étais dans une école pendant en gros toute l'année et il s'avère que c'était l'année dernière, c'est l'année où j'ai commencé à réellement un peu plus oser, essayer d'oser être un peu plus moi. Et donc en fait, en dehors, j'étais beaucoup plus, comment dire, habillée, je mettais mes robes, mes petits pulls en laine de plein de couleurs différentes, ce genre de choses-là. Et donc aussi mon make-up et mon vernis. Mais du coup, quand j'allais à l'école, je n'allais pas avec le make-up. Mais par contre, c'est vrai que le vernis, je ne l'enlevais pas forcément. Et à un moment donné dans l'année, pareil, l'inspecteur m'appelle. Donc cet inspecteur-là m'appelle et me dit... il me demande directement « Est-ce que vous portez du vernis ?» Il dit « Oui, bien sûr. » Et il m'a dit « Oui, parce que j'ai reçu un mail de parents reprochant le fait que vous donnez une mauvaise image aux enfants en vous montrant avec du vernis. » Donc bon, pour le coup, il m'a en partie soutenu. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Si jamais, du coup, les parents font des écrits sur les réseaux sociaux ou quoi, moi, je leur ai demandé, du coup, de me faire un écrit. Et comme ça, vous pouvez porter plainte si jamais... Bon, il n'a pas dit que lui, il porterait plainte. Normalement, c'est la hiérarchie qui est censée porter plainte. Mais bon... Et la partie, on va dire, plus difficile et en même temps qui m'a facilité la vie pour moi, ça a été de dire « il m'a changé de remplacement ». Il m'a changé d'endroit. Alors, moi, j'étais pas contre parce que franchement, du coup, ça me mettait très mal à l'aise. Mais c'est vrai qu'en soi, il m'a pas très bien défendu non plus. Mais bon, il m'a laissé comprendre qu'il me défendrait si jamais il y avait besoin.
Alors qu'il commençait sa transition, Théo a co-organisé un festival féministe.
C'est sûr que ce festival qui a été à la base pensé par une orga qui était Cicetera, et que moi j'ai transitionné pendant l'orga du festival en fait, bah, ça fait que l'orga, elle me correspondait plus, enfin le public il me correspondait plus complètement. Mais la redescente que je me suis coltinée le lundi était vraiment horrible. Dans le sens où il y a des orgas qui m'ont genré en yel et en il tout le week-end et qui ont recommencé à me genrer en elle le dimanche soir. Et le lundi, absolument. Et j'étais là, ah ouais, ça y est, la fête est finie, en fait. J'ai fait un breakdown total, en fait, après le festival. Non, pas que à cause de la fatigue. Vraiment, ce truc de, oh, là, c'était trop bien. Et en fait, mon quotidien, c'est pas ça. Mon quotidien, c'est être seule dans ça. Dans un environnement qui est complètement cis-hétéro, où à nouveau on va me mégenrer non-stop et tout ça. Et donc c'est là, on arrive en août, vraiment j'étais hyper mal, et que j'appelle le père de mon fils, enfin je suis partie en Dordogne, et j'appelle et je suis là, en fait je souffre trop, il faut que je sois à Toulouse en fait, je ne peux pas vivre ici. En ce moment il faut qu'on s'organise différemment, mais je ne peux pas, c'est trop dur. Et je décide de commencer la testostérone. Donc il y a vraiment ce truc de là il faut qu'un truc change parce que je peux pas continuer comme ça. Et donc pendant 2022-2023 j'ai passé plus de temps à Toulouse encore, c'est-à-dire que j'ai fait des périodes de plusieurs fois 3 semaines, et donc j'avais mon fils une semaine sur 4 au lieu d'une semaine sur 2, et même après quand je suis repassée à une semaine sur 2, ben il y avait quand même une semaine entière que je passais à Toulouse par mois, et j'étais en mode je peux pas commencer à prendre de la thé en étant en Corrèze en fait, en étant seule à le faire, enfin c'est trop dur. Et du coup il y a un truc de c'est pas complètement tout le temps ok pour moi d'être ici, mais je sais que j'ai eu besoin d'être à Toulouse pour me sentir normale. En fait, quand je suis en Corrèze, j'ai toujours l'impression d'être une anomalie. C'est-à-dire que je vais à la boulangerie, je me demande comment je vais être genrée, est-ce que je vais dire bah non, c'est pas madame. À l'école, je me sens toujours trop mal à côté des parents d'élèves qui sont très 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 cis-hétéro. Dans les endroits partout où je vais, je me demande si c'est mon dead name qui va être utilisé, est-ce que je vais être mégenrée. Enfin, je suis en vigilance tout le temps et je me sens être une anomalie. Je sens que les gens tolèrent ma présence, mais qu'elle n'est pas normale. Alors que dès que j'arrive à Toulouse, bah comme je vois des queers partout autour de moi, je sais que je leur dis je m'appelle comme ça, ils font ok, mes pronoms c'est ça, ils sont d'accord. Enfin voilà, il n'y a pas de ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais non, mais t'es sûr, mais enfin voilà, ce n'est pas une question en fait. Et du coup, je vois que le fait d'être perçue, de me sentir être une anomalie quand je le fais pendant longtemps, donc là 2 mois c'était vraiment trop long, bah ça fait que ça rentre à l'intérieur de moi. Et que je commence à trouver que je suis une anomalie. Et ça, c'est trop dur, en fait. Je me suis dit, ok, en fait, il faut vraiment que j'organise de voir des queers hyper régulièrement, qui font que j'ai des piqûres de rappel régulières, que je ne suis pas une anomalie. Parce que je ne peux pas vivre dans mon quotidien, il faut que j'ai des rendez-vous prévus, en fait. Voilà. Donc, du coup, je suis un peu plus dans ce mood-là, de tenir sur le territoire, en allant, en programmant de plus possible de voir mes potes, quoi. Enfin, voilà, que j'ai maintenant. Et en fait, moi, je vis de la transphobie par évitement. C'est-à-dire que je m'empêche d'aller dans tel et tel lieu. Et parce que je sais que je vais pas être à l'aise, parce que je vais être le seul, parce que... Enfin, il y a un mois, j'aurais pas eu envie de raconter un truc sur les violences. Là, j'en ai eu 2 vraiment vénères, vraiment récemment. Et du coup, là, je peux les nommer, en fait. Mais sinon... Ils sont pas nommables, ils sont diffus, mais ils se traduisent dans mon corps par le fait que j'évite d'aller dans des lieux, par le fait que je m'inscris à un cours de danse et qu'avant ça, je parle une demi-heure avec la prof pour dire, en fait, il n'y a pas question que je me fasse mégenrer. Enfin, je vais me faire mégenrer, il va falloir que tu reprennes, il va falloir que tu corriges. Soit tu es vraiment allié avec moi, soit je ne pourrai pas venir à ce cours, en fait. Enfin, voilà. Et du coup, qu'il faille que je me coltine une demi-heure de pédagogie envers la prof de danse pour espérer peut-être... pas trop vivre de violence, enfin voilà, c'est tout le temps en fait, voilà.
Ici, j'ai vécu de la placardisation forcée. C'est un sujet que j'évoque beaucoup dans les rencontres que je fais avec le podcast, mais être journaliste localière est de fait, que l'on soit LGBT ou hétéro, un métier difficile, car très lié aux interactions sociales locales. Quand je suis arrivée à Cré, je crois que j'ai évité les questions sur ma vie perso parce que j'avais trop peur que ça rejaillisse ailleurs. Je me suis protégée. surprotégée peut-être. Dans Le génie lesbien, Alice Coffin explique très bien cela. Elle dit « En France, parce que je suis une journaliste lesbienne, on m'interdit de couvrir des sujets lesbiens. Aux US, ce serait l'inverse. Nul autre qu'une journaliste lesbienne ne pourrait traiter des thématiques lesbiennes. » Dans mon ancien travail, j'avais déjà affiché mes engagements féministes et je ne voulais pas être la journaliste lesbienne. D'autant que j'entendais bien qu'on pouvait dire au détour des conversations « Il est homo, mais il est sympa ». Ne pas laisser les autres savoir, être dans le silence, m'a fait vivre de grandes violences intérieures. Des moments où je me suis mordu l'intérieur des joues très fort, quand des proches ou autres personnes dans mon entourage professionnel qui ne savaient pas mon lesbianisme étaient vraiment très homophobes ou LGBT-phobes en face de moi. Taire son homosexualité dans un contexte homophobe, ce n'est pas toujours laisser dire. C'est aussi se sortir d'une situation potentiellement dangereuse pour nous-mêmes. Certaines fois, c'est plus facile de dire les choses, de s'en foutre des conséquences. D'autres fois, ne pas dire, c'est aussi un mécanisme de survie.
De plus en plus d'agressions physiques transphobes et homophobes sont recensées en France. C'est ce que révèle le nouveau rapport de SOS Homophobie. L'association fait état de 184 cas en 2022, soit une augmentation de 28% par rapport à 2021. Et ces agressions font partie des 1195 cas de LGBT-phobie recensés par l'association en 2022. Un chiffre qui est, lui, stable par rapport à 2021. Et ces LGBT-phobies, ça peut être des insultes, du harcèlement, de la discrimination ou encore de la diffamation. C'est sur Internet que les LGBT-phobies s'expriment le plus. 17% des cas ont lieu en ligne. On les retrouve aussi dans le cadre familial et dans les lieux publics. C'est d'ailleurs dans l'espace public qu'ont lieu une grande partie des agressions physiques. SOS Homophobie alerte également sur une tendance inquiétante, l'augmentation des situations de transphobie. Elles ont progressé de plus de 27% par rapport à 2021 et de plus de 35% par rapport à 2020. SOS Homophobie précise que ces chiffres ne représentent qu'une partie de la réalité, d'autant plus que beaucoup de victimes ne témoignent pas.
En fait, je suis allée voir un médecin qui est un médecin généraliste à Limoges, mais qui est spécialisé dans l'autisme. Et en fait, que j'avais vu donc, il y a 4 ans, et qui a été le premier qui a dit « oui, c'est bien, vous avez un TSA, c'est ça qui se passe, quoi, voilà ». Et donc, moi, j'avais déjà fait une demande de diagnostic auprès du CRA il y a longtemps avant, mais bref, en tout cas, lui, ça a fait quelque chose de… Il a confirmé quelque chose, et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire « ok, je ne rêve pas, je ne suis pas fou, c'est ça qui se passe pour moi ». Et en fait, depuis j'ai l'allocation adulte handicapé. L'année dernière, j'ai fait ma demande de renouvellement et elle a été, je l'ai fait un peu en mode automatique et elle a été pas acceptée. Du coup, je suis retournée au CRA voir le centre de ressources en autisme, voir le médecin diagnostiqueur en chef pour lui dire de me faire une lettre pour insister comme quoi vraiment j'avais besoin de l'allocation adulte handicapé. Et à la fin de cet entretien, je lui dis « Au fait, je transitionne ». Et là, il me dit « Ah bah, vous devez pas beaucoup m'aimer ». Et je fais « Bah, pourquoi ?» Et là, il m'explique qu'il a écrit une tribune dans Le Point pour lutter contre les transitions des mineurs autistes, en disant que, en fait, en gros, le mal-être, il vient de l'autisme, il vient pas de l'identité. Et du coup, il faut vraiment ne pas prescrire des hormones, des bloqueurs hormonaux et tout ça aux jeunes. Et du coup, moi, je suis là, je repars de là en me disant, bah lui, plus jamais je vais le voir, en fait. Donc, j'ai d'un côté un médecin activement transphobe, et je me dis, je vais aller voir celui d'avant, celui que j'avais vu la fois d'avant, il y a 4 ans, il était super sympa. Donc, du coup, je vais le voir en étant hyper détendue sur ce type était un type chouette. Mais toute la salle d'attente, je me demande, est-ce que je fais mon coming out ou pas? Est-ce que je lui dis, est-ce que je lui demande juste mon attestation et c'est tout? Est-ce que je lui raconte? Donc, je me dis que je ne vais pas lui dire. Et en fait, pendant l'entretien, il faisait beaucoup de généralités sur les garçons autistes et les filles autistes. Parce que je lui parlais de mon fils qui était diagnostiqué et que lui, il avait l'air de ça aller, quoi. Et du coup, je lui dis, oui, mais en fait, là, ça commence à être un peu compliqué pour moi, qui me renvoie toujours à femme. Et donc, je lui dis, mais en fait, je suis pas une femme, je suis un mec trans et tout ça. Et là, ça devient, mais vénère l'entretien. Parce que, en gros, il me dit, il défonce mon passing. C'est-à-dire qu'il dit, mais comment... Enfin, là, le message que vous envoyez, il n'est pas du tout clair. Et là, il dit, mais vous, vos cheveux, vous avez une permanente, et vous avez une boucle d'oreille, et vous avez une écharpe comme ça, et vous avez une chemise comme ça. Et en fait, les hommes s'habillent pas de cette manière-là. Vous, c'est trop soigné, la manière dont vous vous êtes habillé. Comment vous voulez que les gens comprennent? Enfin, voilà. Et en fait, j'étais là avec quelqu'un en face de moi qui était en train de m'expliquer que j'avais un passing pourri, alors que je souffre déjà de ça, parce que là, ça fait un an que je prends de la testostérone, et j'ai toujours quasiment aucune pilosité faciale, ma voix, elle n'a pas vraiment mué, enfin, il y a un truc où pendant 6 mois, là, j'avais un dosage qui était trop faible, et en fait, du coup, mon corps, il produisait d'autres oestrogènes, progestérone, machin, pour compenser la testo que je prenais en plus, et du coup, mes taux de testo, en fait, ils montaient pas. Et donc, en fait, de fait, même si je prends de la testostérone depuis un an, on dirait que c'est vachement plus récent parce qu'elle n'a pas été assez dosée, quoi, pour moi. Donc déjà, je suis en souffrance de ça. Ça fait un an que je prends de la T. Et ce n'est pas non plus une passion, quoi, enfin, de me faire des piqûres tout le temps. Et ça n'a aucun effet sur la perception que les gens ont de moi. Et là, en fait, ils m'expliquent comment vraiment je ne fais aucun effort, quoi. Et 3 fois de suite, sur une demi-heure d'entretien, il est revenu 3 fois sur le sujet jusqu'à ce que je m'énerve. Bref. Et bien sûr, à dire que j'étais trop militant, à dire que du coup, il fallait pas que je lui en veuille parce qu'il allait me mégenrer, parce que du coup, j'avais pas un bon passing. Donc en fait, c'était comme ça. Enfin voilà. Et du coup, je suis sortie de cet entretien, mais en mode, oh, c'était horrible. Et du coup, c'est pas forcément un truc de ruralité, encore une fois, parce que j'étais à Limoges, mais c'est un truc de méconnaissance, en fait. C'est-à-dire que lui, c'est la première fois que. Peut-être qu'il voyait une personne trans dans son cabinet. Et du coup, en fait, il a sorti tous ses clichés. Alors que quand on a un peu plus l'habitude d'en avoir vu, même si on n'est pas spécialiste, en fait, il n'y a pas tous les clichés qui sortent d'un coup. Donc, j'ai été obligée de le revoir parce que j'avais un deuxième rendez-vous avec lui. Et j'ai beaucoup, beaucoup parlé de ce truc, hein, enfin, à plein de gens. Et du coup, je ne sais plus dans quelle posture j'étais, mais en tout cas, les deux, on a clairement fait un effort. Enfin, en fait, du coup... 3 semaines après, lui, il a vécu un très mauvais moment avec moi, mais il a réussi à être touché dans son « j'aimerais que ça se passe mieux la prochaine fois ». Enfin, je pense qu'il a été touché dans son ego de médecin qui n'aime pas se faire renvoyer, barrer. Il n'avait pas envie que je le renvoie dans les roses une deuxième fois, parce que j'ai été vénère hein, quand même. Et du coup, la fois où on s'est vu là, il y a 2 semaines, c'était beaucoup plus mesuré. Il a vraiment fait des efforts. Il m'a genré au masculin tout le temps. Il m'a parlé de mon agressivité et tout ça. Et moi, j'étais là... je me contenais, il me contenait. Enfin, je me contenais et il se contenait. Et du coup, c'était OK. Mais c'était OK parce qu'il a eu 3 semaines pour travailler le truc. Et je pense qu'il a dû être perturbé aussi, en fait, par le fait que je me laisse pas faire.
Nous vivons tellement de formes de haine extérieure. Elles ponctuent nos vies. C'est aussi pour ça que j'écris cet épisode. Pour que les gens qui m'aiment et qui ne savent pas sachent, pour que les personnes qui me ressemblent se retrouvent. La haine n'est pas toujours visible, pas besoin de se prendre des coups pour la vivre. La haine des autres réveille parfois nos haines intérieures. Albélac dit dans Colza « Toute la haine que je me suis portée, sans l'aide des autres, toute la honte dont je me drape encore, les reproches que je m'adresse, tous les blocages desquels je participe, toutes les portes que je me ferme, les insultes dont je me berce. »
Je pense que c'est vraiment ça aussi, ce truc de ruralité, c'est que je dois tout le temps expliquer. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'autres personnes à qui ils peuvent en parler, les gens, quoi, quand ils sont perturbés. Du coup, en fait, je ne réponds pas. Mais soit je m'énerve, soit je ne réponds pas, soit je fuis. Et du coup, oh là là, qu'est-ce que je suis agressif. Enfin, voilà. C'est-à-dire que... Ah oui, bah, lui, il a insisté 4 fois de suite jusqu'à ce que je réponde si je voulais faire une opération génitale, en fait. Et j'étais là, ça n'a pas de rapport. Est-ce que vous êtes intersexuée du coup? Enfin, je sais pas, est-ce que vous êtes intersexe? Et j'étais là, quoi? Mais ça n'a rien à voir. Enfin, genre, vraiment, il est à l'ouest, quoi. Et je veux paraître comme un homme dans l'espace social. Et il a posé 4 fois de suite la question jusqu'à ce que je réponde si je voulais faire des opérations génitales. Et ça, je suis là, mais ça n'a... En fait, je viens pour un rendez-vous sur l'autisme. J'ai pas envie de parler de ma chatte, quoi. Voilà. Mais ça m'est arrivé aussi il y a quelques mois à l'anniversaire d'une copine. Il y a sa sœur qui m'a trop mis le grappin dessus parce qu'elle dit de mon fils « Ah mais t'es sa tante ?» Parce qu'il m'appelle pas maman, mon fils. Et je fais « Ah non, je suis son parent, mais j'utilise pas maman parce que je suis un mec trans. » Et là, en fait, bah, elle ne m'a plus lâchée, quoi. Elle m'a direct demandé si je voulais une opération chirurgicale. Enfin, voilà, et j'étais là, je ne vais pas répondre à cette question, en fait. Enfin, et après, elle m'a parlé du fait qu'elle avait vu un show de drag queen et que c'était super. Et elle ne me lâchait pas. C'est-à-dire que plusieurs fois de suite, je suis repartie à un autre endroit de l'anniversaire et qu'elle me retrouvait pour me dire à quel point c'était super cool et qu'elle était trop contente de rencontrer des gens différents. Et j'étais là, mais leave me alone, en fait. Enfin, voilà. Et genre, elle se sentait trop ouverte d'esprit, tu vois, de discuter avec moi.
En effet, je me sens beaucoup mieux acceptée quand je fais des gabis, on fait des soirées gabis, et que je peux expérimenter un peu plus de mouvement aussi. Dire, bah, j'ai besoin, aujourd'hui, je sais pas si je dis, par exemple, en ce moment, j'ai besoin qu'on m'appelle elle, j'ai besoin qu'on m'appelle au féminin, et bah, je sais que ça va être accepté, et que ça va être essayé, et que je vais pouvoir du coup me projeter là-dedans et sentir est-ce que je me sens bien là-dedans ou pas. Et tout ça, si je ne peux pas l'expérimenter, bah, du coup, je me renferme sur moi-même, je le subis, je me sens extrêmement mal dans ma peau.
Je ne porte plus de vernis à l'école. Je n'ose plus. Je vais bientôt, je vais sûrement réussir à le refaire. Et même ce que je fais de temps en temps, et c'est ça qui est bien, c'est que malgré tout, de temps en temps, je le fais l'air de rien, je vais mettre un peu de mascara, par exemple. Ça se voit quasiment pas, du coup. Mais il y a quelques personnes qui le remarquent. Souvent, ça va être plutôt des collègues. Hein. Et du coup, et des enfants, des fois. Et les enfants, ils adorent ça. Je veux dire, combien d'enfants m'ont dit « Ah, mais toi, t'es un garçon ou t'es une fille ? T'es un garçon-fille ?» Combien de fois? Et ça, les enfants, voilà, les enfants, non seulement, à la rigueur, soit ils s'en fichent, soit au contraire, ça les réjouit. Et je pense que ça les réjouit de juste voir des choses différentes de ce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et justement, en fait, ça montre que, à la base, on n'est pas comme ça. C'est la société qui nous met dans cet état. Et bref, en tout cas, je vais sûrement réussir petit à petit à m'ouvrir à nouveau sur mon genre et l'expérimenter un peu plus. Mais du coup, ça m'a renfermé aussi dans ma vie personnelle, là-dessus. Ça m'a obligé à m'interroger beaucoup plus, à faire beaucoup plus attention.
Et est-ce que dans ton espace rural, qui n'est pas le même quand même que l'espace urbain, tu arrives quand même à être toi-même, à expérimenter? Est-ce que tu te sens safe dans ton espace rural?
Non, clairement non, mais je suis pas dans le pire. Moi, l'endroit où j'habite est pas le pire endroit. C'est-à-dire que, disons que là-bas, les milieux gays sont acceptés. Donc, selon ce que je porte, du moment qu'en fait ça fasse encore un peu masculin, ça passe. Mais dès que je transgresse la norme de genre, je sens les regards se poser sur moi qui sont très différents. Et je sens... globalement, il y a de l'interrogation, mais il y a peu d'agressivité à part de la part de certains hommes qui vont me regarder mal. Et bon, du coup, je ne fais plus ça seul. Je vais le faire quand j'ai des amis qui viennent chez moi et du coup que je sais qu'on peut sortir comme ça, ou tout simplement quand on sort en ville ou qu'on sort chez l'une, chez l'autre. Là, oui, je vais oser, mais seul. Je vais plus oser le faire seul, quasiment. De temps en temps, je vais oser mettre un peu de make-up. Mais ça s'arrête là, quoi. Mes vêtements, ma garde-robe s'est agrandie, mais mes possibilités de la mettre, pour l'instant, se sont réduites. Donc bon, mais ça va venir, j'espère.
Du coup, c'est la force du collectif qui te donne envie de...
Ouais, disons que mes amis sont des amis queer, donc forcément ça aide. Je sais que j'ai même pas, il y a aucun questionnement même sur ce que je vais faire ou pas faire. La plupart d'ailleurs de mes amis les plus proches me genrent parfois au féminin, au masculin, au neutre autant que possible, et c'est super. Enfin voilà, heureusement que j'ai ça. On m'a proposé, on m'a dit de peut-être voir porter plainte ou en tout cas de déposer des mains courantes ou des choses comme ça. Et en fait, dans les deux cas, il y a un lien avec l'extrême droite locale qui fait que, en fait, je ne veux pas m'afficher et risquer mon intégrité, en fait, dans mon territoire, et d'être pourchassé par les fachos locaux. Alors que déjà, j'ai été affiché, heureusement, mon identité numérique uniquement, sur des réseaux d'extrême droite. Je sais que j'ai été affiché sur affiche ton antifa, des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc, je fais gaffe parce que, en plus, les personnes en question ont beaucoup d'influence et je sais qu'elles ont de l'influence nationalement. Enfin, voilà, ça, je risque gros. Donc, voilà. Malheureusement, je fais pas de vague sur ça et puis je ronge mon frein.
Avant de conclure cet épisode, je voulais rajouter que je ne parle pas ici des violences dans les couples LGBT+, mais comme pour beaucoup de sujets, vivre en ruralité peut être un facteur aggravant de ces violences. J'ai beaucoup travaillé sur les violences dans le couple hétéro en ruralité. En France, 50% des féminicides sont commis en ruralité, alors qu'un tiers des femmes seulement y vivent, selon un rapport du Sénat. L'isolement, le manque d'anonymat, la mobilité, la précarité économique sont des facteurs qui peuvent aggraver ces violences et en isoler les victimes. Si vous êtes victime de violences conjugales ou intrafamiliales, des personnes peuvent vous écouter au 3919 ou sur le chat commentonsaime.fr. Si vous êtes témoin ou victime, vous pouvez aussi appeler la police ou la gendarmerie. Si vous êtes victime de violences LGBT-phobes, SOS Homophobie a une ligne d'écoute anonyme 01 48 06 42 41. L'association ECTAS propose aussi des discussions et des consultations de psychologues à prix libre. Merci à Théo, Kevin et au collectif Gabi, l'antilope queer du Luberon. Vous venez d'écouter Chant Queer, un podcast d'Élodie Potente. Pour me soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi me soutenir sur ma page Tipeee en faisant un don ponctuel ou régulier. J'ai aussi une newsletter que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux que je mettrai en barre de description.